France Musique. Colette dans la Grande Guerre. En 1914, Colette n'est plus tout à fait l'auteur qui faisait scandale en dansant nue dans des pantomimes aux côtés de sa compagne Missy, la marquise de Belleboeuf, avec qui Colette entretient une liaison. Le mythe de la liberté totale est désormais attaché à son nom. Depuis son divorce d'avec Willy en 1906, elle est un écrivain reconnu. 4 dialogues de Bête paraissent en 1904 et lui assurent une reconnaissance définitive. C'est la naissance de l'écrivain Colette. Plus de signatures tronquées, de lectures corrigées, orientées par Willy, ce mari qui la pousse à écrire et qui la révèle avec la série des Claudines. Colette a trouvé son ton, son registre personnel, empreint de finesse et de sensibilité. Une prose parfumée et vagabonde. À l'aube de la Grande Guerre, Colette se marie à Henri de Jouvenel, rédacteur en chef du Matin, grand quotidien et journal dans lequel elle tient une chronique régulière depuis 1910. Puis naît leur fille, Colette de Jouvenel. Elle l'appellera Belgazou. Elle obtient quelques voix au Goncourt et est même citée avec Anna de Noailles pour rentrer à l'Académie française. Le 15 juillet 1914, à quelques jours de la déclaration de la guerre, Colette est en vacances en Bretagne. Un journaliste du magazine Femina l'interroge sur la mode vestimentaire à suivre pendant les vacances. Mais le 1er août, c'est la stupeur. Telle qu'elle l'a décrit dans le texte « La Nouvelle », publié dans le recueil d'articles « Les Heures Longues », paru en 1917. La guerre ? Jusqu'à la fin du mois dernier, ce n'était qu'un mot, énorme, barrant les journaux assoupis de l'été. La guerre ? Peut-être, oui, très loin, de l'autre côté de la terre, mais pas ici. Le mot « guerre » est absurde, il est à peine pensable, il s'incarne brutalement dans ce paradis qui n'était point fait pour la guerre, mais pour nos brèves vacances, pour notre solitude. Dans sa correspondance, elle assure à un ami que Sidi, c'est ainsi qu'elle nomme Henri de Jouvenel, lui écrit qu'il croit encore à la paix et que l'aspect de Paris, inquiet, mais excité et crâneur, n'est pas déplaisant. Mais cet optimisme est vite balayé par l'annonce de la mobilisation générale. Dans son texte « La Nouvelle », elle égrène les minutes où tout bascule. Un coup de tonnerre entrait en même temps que nous. La mobilisation générale. Comment oublierais-je cette heure-là ? De sa position, à la fois concernée et observatrice, elle note la réaction des gens, leur peur, la panique après la stupeur. Des femmes quittent les groupes en courant, s'arrêtent comme frappées, puis courent de nouveau, avec un air d'avoir dépassé une limite invisible et de s'élancer de l'autre côté de la vie. Pour Colette, il est temps d'abréger ses vacances et de revenir auprès de Jouvenel à Paris. « La réalité, c'est Paris. Paris où vit la moitié de moi-même », dit-elle dans la nouvelle. La guerre n'est pas un arrêt dans le travail de Colette qui choisit de rester à Paris. Jouvenel est mobilisé et envoyé sur le front à Verdun où il demeure 8 mois. L'argent manque et la nécessité de fournir des articles reste d'actualité. Elle raconte alors dans son style sensuel et sensible, donnant de la chair aux mots, le quotidien d'une capitale désertée. Ses habitants qui ont fui pour se réfugier loin de l'avancée allemande. Ses blessés qui reviennent du front, les femmes qui travaillent. Ces femmes qui ne sont pas encore considérées comme des citoyennes et que le conflit oblige à prendre des responsabilités. Dans un article qui paraît au journal Le Matin, Colette écrit « Il faut dire, il faut chanter leur courage, leur mérite inattendu, leurs vertus toutes neuves qui fleurissent nombreuses et sans effort. Il faut les louer toutes, et celles qui font quelque chose, et celles qui ne font rien, rien qu'attendre quelqu'un, espérer, croire. Qui ne font rien, sinon se taire, manquer de presque tout, et ne pas le dire. Rien que se cacher pour donner pudiquement la moitié de leur strict nécessaire. On saura, Dieu merci, les noms de quelques-unes de celles qui font quelque chose. On ignorera tout des autres. Je voudrais au moins signaler l'existence de ces autres, obscurs, innombrables. Il s'agit de ma voisine, de la vôtre, de la petite dame d'en face qui secoue timidement son chiffon à poussière. Il s'agit de la modeste boutiquière d'une vieille rue de Passy, de toutes ces silencieuses, ces entêtées qu'on voit passer vite, plus pressées de rentrer et d'agir que de parler. À Paris, les hommes sont partis. Les maris comme les domestiques. Les techniciens, mais aussi les peintres, les comédiens et les musiciens. Maurice Ravel est ambulancier avant d'être démobilisé en 1917. Éric Satie défend Paris en tant que caporal. Le peintre Fernand Léger est sapeur-pompier puis brancardier, lui aussi réformé en 1917. Le poète Guillaume Apollinaire s'engage dans l'artillerie dès le début de la guerre, mais un éclat d'obus le blesse et le pousse à rentrer à Paris. Les théâtres ferment, les restaurants aussi. Toutes les lumières doivent s'éteindre avant la tombée de la nuit. La guerre n'est pas là. C'est pire, elle est partout. Très vite, on met des visages sur les listes de morts publiées chaque matin. Charles Péguy, le 5 septembre 1914. Le 22, c'est au tour de l'auteur du Grand Môle, Alain Fournier. Quant à Colette, elle a expédié sa fille Belgazou en Corrèze, chez sa belle-mère. Et elle ne materne plus que ses chats et ses trois amis qu'elle héberge dans le chalet qu'elle habite à Passy, près du bois de Boulogne. Les quatre femmes se ressemblent. Annie de Peine, romancière et journaliste, Marguerite Moreno, comédienne, et Musidora, danseuse de cabaret, qui enchaîne les rôles au cinéma. Elle fait un tel triomphe dans Les Vampires que le mot « vamp » est inventé pour elle. Elles aiment la vie, le vin, les hommes, la cuisine. « Quelle bonne escouade de femmes !» relate Colette. Marguerite Moreno, la cigarette aux lèvres, répandait sur nos besognes ménagères la bienfaisante rosée des nouvelles vraies ou fausses, de l'anecdote, des prédictions. Elle était puissante à semer la graine miraculeuse du rire, le rire des drames, le fou rire nerveux des guerres, l'insolence qui se dresse contre le danger proche, le jeu de mots excitant comme une gorgée d'alcool. Entre 1914 et 1918, Colette crée ainsi dans sa chaumière couverte de vigne vierge une sorte de phalanstère féminin, une parenthèse miraculeuse de liberté où règne dans l'air un parfum de volupté, une odeur de mimosa, une poussière de poudre de riz. Les femmes n'ont ni le droit de vote, ni l'autorisation de signer un chèque, mais les quatre amies ont les cheveux courts, portent des pantalons, ont divorcé, ont des amants, voire des maîtresses, et exercent des métiers. En ces années de guerre, Colette, comme de nombreuses femmes de l'arrière, a le désir de se rendre utile. Elle effectue alors des gardes de nuit auprès des blessés au lycée Janson de Sailly, transformé en hôpital militaire. Elle élabore ses textes qui aboutissent en 1916 à la parution de La pêche et les bêtes et de Mitsou en 1919. Colette est profondément curieuse et décide de se rendre sur le front. Elle veut aussi rejoindre son mari dont elle est éperdument amoureuse. Sa liberté affichée et revendiquée s'entend aussi avec des fantasmes de soumission. Alors quand Henri de Jouvenel, dit le Pacha, ne vient pas la rejoindre dans son chalet, elle se rend sur le front. Ainsi, dès 1915, sous un faux nom et avec des papiers d'emprunt, elle décide de le rejoindre. Elle arrive à berner les gendarmes et après 13 heures de trajet dans un train noir aux lumières éteintes qui chemine lentement entre Châlons et Verdun, elle rejoint son mari. Elle pousse même sa curiosité et son imprudence à aller un peu plus loin sur des lieux réduits en cendres. Ramenée manu militari, elle écrit des reportages de guerre pour le matin. Ils sont édités dans Les Heures Longues en 1917. La République, L'Éclair, La Vie Parisienne, Marie-Claire, Paris Soir, tous les journaux demandent la signature de Colette. Elle publie même dans Le Figaro. Et dans le recueil La Chambre éclairée, Colette laisse un témoignage exceptionnel de la vie à l'arrière, durant cette grande guerre. Plaine sans troupeau, vallée sans herbage, ici l'œuvre de la guerre devient fantastique. Les songes de la fièvre seule visitant des planètes dont le sol, comme celui-ci, est troué d'yeux. Car l'entonnoir creusé par le projectile touche à l'entonnoir voisin, comme l'alvéole à l'autre alvéole dans la ruche. La pluie a rempli d'eau ses orbites innombrables, dont l'iris, vert ou jaunâtre, joue sous le vent, cerclé d'une paupière de glace pâle. La pluie fauche, mêlée de neige, qui colle à la terre et ne fond point. Un millier de bûches, debout, tranchées toutes à hauteur d'homme, s'appelait un petit bois, dans le temps où ce pays comptait des bois, des oiseaux, des habitants et leur demeure. Colette.
À réécouter sur francemusique.fr.